L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 11h52, ce 1er mai 1999. Le toit du monde, le ciel bleu, le soleil puissant, omnipotent. Nous sommes à 8229 mètres d'altitude, au cœur de l'Himalaya. Dans quelques instants, les pieds et les jambes dans une poudreuse aussi friable qu'instable, à l'abri derrière des capuches, des lunettes et des écharpes, une petite bande d'amis va faire une découverte qui dépasse toutes leurs espérances. Oui, même ici, sous la pointe de pied des dieux, les mystères et les légendes règnent en maître. L'un d'entre eux lance un appel radio. Il est sans équivoque et résonne chez les autres comme une déflagration. Un corps. Il a trouvé un corps. Il est 11h52, c'est l'heure H de mon histoire. Trois heures plus tôt, les cinq jeunes Américains ont quitté le camp 4. Trônant face à l'astre solaire, défiant l'immortalité, la pointe la plus élevée de la planète semble imperturbable. Seul dans le silence, seul dans le froid, dans la mort. Konrad Anker est Américain et c'est l'un des membres de l'expédition. Il en est la star et de loin. Il est l'un des meilleurs alpinistes de sa génération. Vu de l'extérieur, tout laisse à penser que les amis vont tenter l'ultime ascension et redescendre ensuite couronnés de gloire. Mais il n'en est rien. Eux, ils sont venus là pour résoudre un mystère non élucidé depuis bientôt 80 ans. Que sont devenus Sandy Irvine et George Mallory? Et avant cela, ont-ils réussi à arriver tout en haut? Cette histoire est enseignée dans les écoles par les profs d'alpinisme depuis des dizaines d'années. Deux hommes, deux génies, ont tenté l'incroyable assaut à une époque où aucun matériel ne le permettait. Il ne subsiste qu'une dernière image d'eux s'accrochant aux parois dans un brouillard épais dans les années 20 et puis plus rien, plus de son, plus d'image. Il ne fait aucun doute pour personne que les deux amis sont morts. Mais ces deux British ont emporté avec eux leur légende. Alors ont-ils péri en montant ou en descendant? Oh, c'est très loin d'être un détail. Officiellement, le premier homme qui posa le pied sur la paroi tout là-haut l'a fait en 1951. Mais si tout cela était en fait un mensonge? Et si c'était eux, les véritables héros? La chasse aux dépouilles, aussi morbide soit-elle, est absolument indispensable pour découvrir la vérité. Ils ne sont pas les premiers à traquer des indices. En 1975, le versant nord de la montagne est conquis pour la première fois par une impressionnante expédition chinoise. L'un de ses membres, un jour, au travers d'une brume de mauvais augure, a aperçu non loin de lui un corps. Celui d'un vieil Anglais, dira-t-il. Il n'en faudra pas plus pour lancer les hostilités. En 1988, un historien obsédé par cette histoire organise une première expédition uniquement consacrée à la recherche de celui qu'on pense être, d'après le témoignage du Chinois, Irvine. L'échec de l'expédition, lamentable, dégoûte l'historien qui rentre bredouille. Voilà que 11 ans plus tard, c'est un jeune Allemand, Emleb, lui aussi fasciné par ses destins hors normes, qui relance la chasse. Il contacte Konrad Anker, notre héros. Ensemble, ils forment une dream team de choc. Et aujourd'hui, les voilà, tout près. L'Américain le sent. Ce matin, ils se sont séparés pour couvrir plus de distance, moins se disperser aussi. Le tout en étant connectés à la montagne, sans compromis. Ses yeux bleus tapis derrière les verres fumés de ses lunettes, il est tout de même aveuglé par cette immaculée perfection. La neige à perte de vue et les roches qui se dessinent de manière très différente les unes des autres. Le soleil dans son dos inonde de son éclat ce paradis blanc. Mais serait-ce possible? Ici, avant même de s'approcher, il sort ses appareils de mesure, vérifie l'altitude exacte et regarde sur quelle inclinaison du versant il se trouve. Comme attiré par un aimant invisible, il se jette dans ce qui pourrait être une fausse piste. Chaque pas qui le rapproche de sa cible est plus lourd que le précédent, mais il ne peut se tromper, ce n'est pas un mirage. Là, à 100 mètres devant lui, émergeant du manteau poudreux, tout droit au milieu de ses jumelles, se dresse une jambe. Mieux, elle porte une chaussure qui semble être très très ancienne. C'est bon, ils l'ont fait. Ils ont réussi. Sans attendre, il attrape, tremblant d'excitation et d'émotion, son Tokiwoki. Les gars, j'ai trouvé un corps ici. Quelques minutes plus tard, tous les alpinistes sont rassemblés autour de cette dépouille, visiblement là depuis des dizaines d'années. La chaussure encore à son pied est un ancien modèle, possiblement de ceux portés par Mallory et Irvine. L'autre pied est nu. Les deux jambes sont à l'air libre. Les tissus des vêtements ont depuis longtemps disparu. Deux fractures ouvertes laissent présager d'une chute importante de cet alpiniste. Le reste du corps est particulièrement bien conservé, momifié même. La montagne aime à garder ses victimes intactes, comme des témoignages. Tout son dos est dépourvu de vêtements lui aussi, le vent a tout arraché. Toute cette zone est intacte et ses bras sont déployés comme s'il avait cherché à prendre son envol. Ses mains et son visage, enfin, sont enfouis sous une couche de pierre gelée. Impossible de voir la tête de celui qu'ils ont trouvé. À proximité du corps, alors même que l'un d'entre eux filme la scène, la BBC étant partenaire de cette expédition, il retrouve un altimètre en cuivre, un couteau et des lunettes de neige. Tous ces objets sont intacts et en plus, ils sont anciens. Alors qu'il était jusque-là un peu en retrait, Anker, les mains dans ses gants et l'esprit frappé par la vision de cette victime de l'Everest, prend les choses en main. Aidé d'un de ses camarades, il cherche une trace ou quelque chose qui permettrait de l'identifier. Il sent le corps congelé sous ses doigts, agrippe ce qu'il reste du col d'une chemise. Et puis soudain, il ne peut s'empêcher de s'exclamer, entrecoupé de « Oh mon Dieu !» aussi strident que meurtri. « C'est George Mallory !» En effet, inscrit au creux du col au stylo, ces deux petits mots préservés et attendant la découverte qui se profilait aujourd'hui sont frappés de la puissance du soleil. Leur expédition a réussi. Un des deux héros de l'Everest vient d'être retrouvé. Tout de suite, on recherche les appareils photo contenant les seules preuves possibles de leur éventuel passage au sommet. Ils ne sont pas là. Deuxième espoir, retrouver la photo de Ruth Mallory, la femme du décédé. Il avait promis de la placer au sommet si jamais il y parvenait. Et stupeur. Personne ne met non plus la main dessus. Cela voudrait-il dire que... Anker, qui soutient la théorie de la mort des deux hommes avant le sommet, calme le jeu. Pas forcément. Il a pu la perdre en route. Toute cette scène filmée fera bientôt l'objet d'une émission télé qui secouera les foules du royaume d'Élisabeth II. En attendant, il paraît inconcevable et impossible de ramener la dépouille au camp de base. L'expédition décide alors de le laisser sur place. Mallory est mort en croyant dans la religion anglicane. Ses découvreurs, eux, sont américains et ils n'ont pas vraiment d'idée sur la marche à suivre pour une cérémonie de ce type. Sauf un qui décide de prendre les choses en main. Alors qu'il prie et mène le cérémonial d'une voix claire mais essoufflée par l'altitude, les autres, dont un cœur, recouvre l'alpiniste de pierre pour le cacher. S'ensuivent quelques minutes de recueillement durant lesquelles notre star américaine des montagnes ne peut s'empêcher de porter son regard vers le sommet. Qu'est-il arrivé à cette expédition de 1924 ? Pourquoi était-il là ce corps, près de 500 mètres en contrebas du sommet ? Sont-ils les premiers à avoir réussi ? Et surtout, où est Irvine ? Il n'a pas oublié Anker, ce qu'a raconté l'alpiniste chinois de 1975. Sur la face nord, tout près du sommet, la main en l'air, comme pour un appel à l'aide, il a vu un corps ancien. Celui d'Irvine, sans aucun doute. Le succès ne peut qu'être partiel aujourd'hui. Anker, l'espoir chevillé au corps, les yeux embrumés d'émotion, espère pouvoir vite revenir. Il veut percer le mystère de ceux qui, selon lui, sont morts en tentant de poser le pied tout en haut du monde. Ils en ont trouvé un, enfin, 75 ans après sa disparition. Irvine, lui, attend toujours. Notre histoire commence le 7 juin de l'année 1922. Il est 14h. George Mallory, 34 ans, regarde avec stupeur la découverte fondamentale faite l'année précédente. Le passage sur le versant nord permettant d'accéder au sommet de l'Everest. Le jeune homme, charismatique, enseignant de formation, se retourne vers ses camarades. Malgré le vent et les conditions météo défavorables, tous jubilent. Totalement mitouflés dans des couches et des couches de tissu, ils font une pause salvatrice. Les 7 Britanniques qui sont là sont accompagnés d'une dizaine de Sherpas locaux. C'est leur deuxième tentative d'ascension. L'année précédente, ils ont trouvé le passage. Aujourd'hui, ils vont gravir ce sommet. Mallory est un leader né. Depuis longtemps déjà, les alpinistes du Royaume-Uni rêvent de dominer le toit du monde. En 1913, juste avant la grande guerre que tous les présents de ce jour ont faite, y compris Mallory, un premier Anglais s'est déjà rendu sur place. Ce fut un échec. À l'époque, le Népal est une terre interdite aux étrangers. Heureusement, peu de temps après la fin de la guerre, la situation s'est décantée. Et pour la première fois l'an dernier, George Mallory a gravi aussi haut que possible la mythique déesse. Au bord des 7000 mètres, bien plus haut que le Mont Blanc qu'il a conquis quelques années avant son incorporation militaire. Déjà 4 ans que le conflit est derrière eux, mais pour autant, personne n'a oublié. Tous sont meurtris. C'est pour ça qu'ils sont là. Braver les éléments, braver la mort elle-même qu'ils ont déjà côtoyée dans les tranchées des Flanders Fields. Avec peine, le froid et le vent le prenant aux tripes, Mallory ouvre la marche et dépasse le repère placé là l'année précédente. Record battu, pense-t-il. Les conditions sont extrêmes. La météo est pourrie. Vent, instabilité de la poudreuse. Ils ne voient pas 2 mètres devant eux. Le vent parle entre les pics. Le renvoie des sons horribles, comme si le Yeti en personne allait descendre d'un coup pour les dévorer. Sifflement, tonnerre. Tout participe à ce climat d'horreur. Mais les Britanniques, eux, continuent d'avancer. Pour eux, rien n'est plus terrifiant que le gaz moutarde ou le bruit des mitrailleuses allemandes. Absolument rien. L'Everest n'est certes pas un allié, mais avec patience. Mallory compte bien le vaincre. Les pieds sur le versant nord, la tête déjà au sommet, la petite troupe ne s'arrête pas, malgré les assauts du mal des montagnes. Les voilà déjà à 8000 mètres. Ils sont maintenant à moins de 1000 mètres du pic ultime. Il est là, dans les nuages et la brume. Il les nargue, les toise. Il les teste. Mallory continue d'avancer dans la neige comme un dieu. Il semble presque flotter sur la poudreuse. Gauche, droite, gauche. Et soudain, la catastrophe. Inattendue, totalement improvisée. Une secousse sans un bruit. Une horrible vague blanche se détache à sa droite, aussi haute que certains pics, terrifiante. Instinctivement, il se retourne vers ses coéquipiers. Les plus à gauche, dont lui, ne se trouvent pas sur le trajet de l'avalanche. De manière totalement miraculeuse. Mais juste à côté de lui, 7 Sherpas du groupe de tête sont emportés. Mallory ne peut rien faire, juste les regarder mourir, dans un chaos où se mélangent des cris atroces, les bruits des os qui se brisent et des articulations qui claquent. Le poids de la mort pèse sur la neige du toit du monde. L'Everest vient de faire ses premières victimes. Il y en aura de nombreuses autres, mais ça, tout le monde l'ignore encore. Mallory, profondément marqué par cette vision d'horreur, s'est arrêté à 8320 mètres. Toute la troupe rebrousse chemin, et pour George Mallory, la conclusion est sans appel. Il ne remettra plus jamais les pieds sur cette montagne. L'année suivante, profondément traumatisé par cette première expérience de mort alpine, Mallory part pour une tournée aux États-Unis. Après une énième conférence, comme d'habitude depuis son arrivée, des journalistes le tensent sur son obsession du toit du monde et le questionnent sur ses motivations. De manière lacunaire, les yeux remplis de flammes, il répond « Because it's there », parce qu'elle est là. La phrase passe à la postérité et tous se demandent ce qu'il veut dire. Mallory l'a vu, tout là-haut, avant qu'elle ne déchaîne sur eux sa fureur. Il a vu la déesse de la montagne. Alors quand en fin d'année on lui propose d'y retourner, cette fois d'être l'adjoint du big boss de l'expédition, il hésite, longuement. Et attiré comme par un aimant vers le sommet de l'Everest, il accepte. L'équipe est composée de vétérans des deux premières tentatives et de deux petits nouveaux. Tous sont des rescapés de la Première Guerre mondiale, tous sauf un. Sandy Irvin, 21 ans. Avant de repartir, Mallory précise sa pensée sur sa manière de voir l'Everest. Il écrit ceci. Pourquoi l'Everest ? Son existence est un défi. La réponse, je suppose, fait partie de la part instinctive de l'homme de conquérir l'univers. Nous allons à l'Everest parce que nous le pouvons, et pour résumer, nous ne pouvons faire autrement, ou, pour le dire différemment, parce que nous sommes des montagnards. L'Everest, c'est la conquête de l'absurde, la beauté de l'inutile. Au fond, les alpinistes, plus que la montagne, viennent s'y chercher eux-mêmes, penser leurs blessures, guérir leur traumatisme. Il aura fallu 2 ans pour mettre en place le financement de cette 3e expédition. L'imaginaire collectif du monde de l'alpinisme sera marqué à tout jamais par le départ de cette petite bande en février 1924. Et vous n'imaginez pas, vous qui nous écoutez, à quel point vous allez être secoué par les rebondissements, les péripéties et les conclusions de ce Caucase au parfum de thriller. Un combat acharné, une bataille rangée entre ces 12 hommes et les divinités de la montagne. L'enjeu de taille vaut tous les sacrifices. Dominer pour la première fois le toit du monde.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H nous conduit vers le toit du monde et ses mystères, l'Everest. Au cœur de l'Himalaya, la montagne dangereuse, imprévisible, n'a encore jamais été conquise par l'homme, alors que nous sommes au cœur des années 20. Entouré de 11 autres, George Mallory, un vétéran de la Première Guerre mondiale, compte bien devenir le premier à le faire. Mais le destin est souvent capricieux. Alors qu'il a raté ses 2 premières tentatives, une nouvelle expédition se monte durant 2 ans et les 12 équipiers quittent le sol britannique en février 1924. L'objectif est clair, ne pas tergiverser et avancer, coûte que coûte, vers le sommet de la plus haute montagne du monde. Mallory, qui accueille dans l'aventure le jeune Sandy Irvin, n'en demande pas tant. Nous sommes le 26 avril 1924, il est 10h30. Sandy Irvin en a plein les bottes. En vue, enfin, le monastère de Rongbuk et son petit hameau. Le dernier, avant les premiers pas sur la montagne. Jeune homme est autant ébloui qu'épuisé. Il a 22 ans depuis quelques semaines. La force de sa jeunesse se conjugue avec son inexpérience et son impatience. Ses cheveux ont déjà bien poussé depuis février. Le jeune coquet à la mèche impeccable, parcourant les couloirs d'Oxford, a laissé place à l'homme des bois. Celui qui ne se rase plus que tous les 5 jours et dont les cheveux partent dans tous les sens. Il est l'un des plus grands du groupe et de loin le plus jeune. Il est le seul à ne pas avoir vécu l'horreur de la guerre 14-18 en France et en Belgique. Pour être honnête, Sandy se sent un peu étranger au sein de cette bande de guerriers des temps modernes marqués par ce qu'ils ont vécu. Lui était encore dans cette bulle de protection de la vie qu'on appelle l'insouciance. Il s'apprête à devenir ingénieur et surtout, c'est le meilleur rameur d'aviron de tout le campus. Bon, c'est à se demander pourquoi il a été choisi pour grimper la montagne. En réalité, il ne le sait pas vraiment lui-même. L'homme qui marche à côté de lui le sait. George Mallory a maigri ces derniers mois, rongé par le stress, par l'appréhension face à ce monstre qui se dresse de nouveau devant lui. Il n'est pas tous les jours serein. Et qui pourrait lui en vouloir ? La moitié de l'équipage qui a échoué il y a presque 2 ans est là, avec lui. Et le chef de groupe, ce lieutenant-colonel, certes, respecté, mais pas exempt de tout reproche sur les échecs précédents, est là, lui aussi. Et c'est ce qui inquiète Mallory, à vrai dire. L'éventuelle mauvaise gestion. Mais chaque fois que ses yeux se posent sur le seul membre de cette nouvelle génération qu'incarne Irvine, il sourit, comme un grand frère. Et son jeune acolyte l'a bien compris de cette manière. La montagne est déjà là, écrasante. Son poids et sa présence sont tels que les yeux ne peuvent faire autrement que de se lever. Les cervicales se contractent et on frôle le torticolis à chaque instant. Mallory a choisi Irvine justement parce qu'il est inexpérimenté. Cela lui donne de nombreuses qualités. La prudence accrue en premier lieu, mais surtout, ce gamin est un bricoleur de génie, spécialisé dans un domaine que Mallory exècre, l'oxygène. Lui, le grimpeur tête brûlée, déteste l'emploi de ses bouteilles, lourdes, encombrantes et pas toujours efficaces. Il préfère se dire qu'on peut s'en passer. Autant vous le dire, c'est une chimère. Sandy Irvine, lui, l'a bien compris. Tout là-haut, le corps est poussé dans ses ultimes retranchements. Passez les paliers trop vite et vos poumons explosent. Partez sans le sésame de l'oxygène et c'est la mort assurée à plus de 8000 mètres. Alors oui, cette technologie n'est pas toujours très fiable. Mais lui sait manier les bouteilles comme personne. Voilà pourquoi il est là. Irvine, à crapahuter avec des chaussures à clous qui lui filent des ampoules et un sac bien trop lourd, même pour son dos de sportif accompli. Je vous laisse imaginer celui des autres, ceux qui déjà ont pris de l'âge. Ils sont pliés en deux et peinent même à lever la tête vers le sommet. Le poids de l'équipement, c'est la première des plaies. Comme un seul homme, l'équipage se présente au monastère de Rangbuk peu avant la fin de la matinée. Ils sont accueillis comme des rois, tant les locaux ne sont pas encore habitués à voir arriver des étrangers sur leur sol, dont l'accès était encore interdit il y a peu. Les Sherpas ne sont plus les seuls dieux de la montagne. Beaucoup regardent Irvine, Mallory et les autres blancs d'un air presque incrédule. Ils vont tenter l'ascension, encore une fois. Alors qu'ils mangent les bols tendus par les moines, l'un d'entre eux s'arrête brusquement sur les mains d'Irvine, comme pétrifié. Dans une langue incompréhensible pour l'anglais, il baragouine quelques mots et se saisit d'effroi. Mallory, témoin de la scène, demande à un des Sherpas qui parle quelques mots de leur langue de lui traduire. « Eh bien, ce moine dit que la mort vous guette. Elle est cachée là-haut, tout près du sommet. » Cet épisode spirituel n'a pas échaudé les esprits. Les religieux à moitié tarés, c'est courant, pense Irvine. Il démarre donc l'ascension de la montagne quelques jours plus tard. Le soleil, à son zénith et à sa pleine puissance, les pousse à avancer sans crainte dans le manteau blanc qui s'épaissit de plus en plus. La neige n'est pas seule. Elle s'accompagne de glace, beaucoup de glace. Tout est congelé autour d'eux. Température jamais ne dépasse le seuil du dégel. Les organismes déjà fatiguent, Les pauses sont nombreuses. Le camp 1 est situé à 5100 mètres, tout près du monastère. Afin de s'acclimater durant plusieurs jours, les alpinistes montent en altitude mais redescendent le soir, passer la nuit au monastère dans leur tente. Le camp 2, situé un peu plus haut à 6050 mètres, est atteint le 5 mai. Irvine, comme les autres, ressent les effets du mal des montagnes. Leur vision est moins bonne. Le soleil leur brûle la rétine et le manque d'oxygène altère leur sens. Heureusement, ils maîtrisent bien la gestion des bouteilles et personne n'en souffre très gravement. Ils accèdent tous au camp numéro 3 le 18 mai et au numéro 4 le 21 mai. Nous sommes alors à 7000 mètres d'altitude et certains des membres de l'équipe vont perdre la vue de manière partielle à la suite des effets du soleil. Il leur faut le temps de s'acclimater. Ainsi, plusieurs semaines, la petite troupe va se contenter de vivoter autour du camp 4 et surtout prendre le temps d'élaborer des plans. L'ascension ne se tentera que par paire. Le mauvais temps et la saison des moussons arrivent. Il faut donc faire vite et être efficace. La première tentative est menée par le chef de l'expédition et Mallory au début du mois de juin. Elle échoue lamentablement. Le chef de l'expédition ne pouvant tenir la cadence. À leur retour, un deuxième essai est mené par deux autres membres. Même résultat. Tous reviennent à la base épuisés. Mais Mallory refuse de se laisser abattre. Le 6 juin, alors que tous sont prêts à rebrousser chemin, il décide de tenter sa chance une dernière fois. À la surprise générale, il annonce vouloir partir avec Irvine. Il faut dire que le chef d'expédition est aveugle depuis 72 heures et que tous ont perdu beaucoup de poids. La jeunesse de Irvine et sa connaissance du maniement de l'oxygène vont les aider. Soyons clairs. Ils ne sont pas optimistes sur la réussite de cette mission, mais c'est la dernière chance. Si la situation est trop difficile, d'autant que les conditions météo deviennent très perturbées, ils opéreront un demi-tour afin de retourner au camp. Personne n'imagine alors une issue tragique. C'est donc tout naturellement que le 8 juin 1924, avant le lever du soleil, les deux hommes saluent leurs compagnons et entament la montée. Tout le monde l'ignore alors, mais c'est la dernière fois qu'ils serrent dans leurs bras leurs deux amis. La mort, comme annoncé par le moine, bien cachée dans les hauteurs, les attend de pied ferme. Irvine et Mallory, essoufflés mais heureux de parcourir ce chemin vers la gloire ensemble, ne l'ont pas vu. Le dénouement, lui, est proche.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H nous transporte le long des pentes abruptes de l'Himalaya en compagnie des premiers explorateurs partis à la conquête du toit du monde. Après deux premières tentatives infructueuses, Georges Mallory accepte de revenir au Népal pour tenter le coup une dernière fois. Nous sommes en juin 1924. L'équipe d'alpinistes chemine très progressivement jusqu'à près de 7000 mètres d'altitude. Le versant nord de la montagne est leur prochain objectif. Par deux fois en quelques jours, Mallory et ses camarades vont échouer. Il est le seul à y croire encore et persuade son jeune acolyte, Sandy Irvine, le pro des bouteilles à oxygène, de repartir avec lui. Tous deux s'élancent à l'assaut de l'Everest le 8 juin au matin. Alors que le jour se lève, leur silhouette de plus en plus fine s'éloigne du camp 4. Tous les autres les attendront avant de repartir. Mais qu'ils fassent vite, car le mauvais temps arrive. Nous sommes toujours le 8 juin 1924. Il est maintenant 12h50. Nos deux aventuriers des temps modernes sont partis il y a plus de 4 heures. Le tout dans une brume à vous donner la chair de poule. Noël Odell, l'un des membres de l'expédition, les a accompagnés jusqu'au camp 6. Il a les yeux rivés sur la montagne depuis des heures. Soudain, une éclaircie permet à l'homme de voir le pic de l'Everest et son sommet. Mais pas que. Il écrit dans son journal. Il y a une éclaircie et toute l'arête sommitale et le pic final de l'Everest sont apparus. Mes yeux se sont fixés sur un petit point noir qui se profilait sur une petite crête de neige sous un ressaut rocheux de l'arête. Le point noir bougeait. Un autre point noir est devenu visible et est monté dans la neige, rejoindre l'autre sur la crête. Le premier s'est ensuite rapproché du grand ressaut de rocher et est sorti rapidement au sommet. Le second a fait de même. Puis, cette vision fascinante s'est évanouie, enveloppée à nouveau de nuages. Tout l'après-midi, la couverture nuageuse et brumeuse enveloppe de nouveau l'Everest. Plus aucune vision possible. Les années suivantes, le témoignage de Odell sera remis en cause. Un point tel qu'il en viendra finalement à douter de les avoir vus à ce moment-là. Mais en son fort intérieur, il en reste persuadé. À 240 mètres du sommet, ce sont bien Mallory et Irvine qu'il a aperçus. Les heures s'étiolent. La nuit pointe le bout de son nez et, hélas, les deux hommes ne reviennent pas. La peur gagne ceux qui restent en bas. Odell, le seul à être monté jusqu'au camp 6, quitte les lieux et redescend vers les autres à l'approche de la nuit, non sans laisser un mot aux deux alpinistes. Deux jours plus tard, alors qu'il remonte afin de voir si les deux hommes sont passés par là, il retrouve sa note exactement à la même place. Fin des espoirs. Ils sont morts. L'expédition attend encore un peu, puis décide de repartir, orpheline de ces deux éléments les plus prometteurs. La légende d'Irvine et Mallory, elle, commence. L'Everest retombe dans sa torpeur millénaire après ses deux décès. Ce n'est qu'en 1933, soit 9 ans après, qu'une expédition est de retour sur son col. Échec. Celle de 1936 ? Échec. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, le comité Everest est dissous. 20 ans plus tard, le 29 mai 1953, deux alpinistes vont, à la surprise générale, mettre le pied tout en haut et revenir. Quelques jours seulement avant le couronnement de la nouvelle reine Elisabeth II. Ils sont les premiers sur le toit du monde, avec un goût amer dans la bouche. L'histoire est parfois cruelle. La légende l'est d'autant plus. En effet, jamais ils ne pourront prouver que réellement, ils ont été les premiers à arriver au sommet. En 1924, deux hommes ont peut-être eux aussi réussi l'impensable. Cette certitude, personne ne l'a. Le poids de la légende est tel que Mallory est hissé au rang de figure mythique, presque un demi-dieu. Son corps, quelque part au creux de la glace, non loin de celui d'Irvine, devient le symbole du mystère. Il faut les retrouver pour savoir peut-être ce qu'il s'est passé. Vous le savez, c'est en 1999 qu'on retrouve, lors d'une expédition financée uniquement pour cette raison, la dépouille de Mallory, à 600 mètres du sommet final. Il a chuté, cela ne fait aucun doute. Mais en montant ou en descendant, personne, là non plus, n'a la réponse. Le corps d'Irvine, lui, est toujours la pièce manquante du puzzle. Son âme semble toujours errer à la recherche de son but. Un Britannique en pleine ascension, secoué par la neige et le vent, soutient avoir distingué sa dépouille tout près du point final. Il n'a pas pu s'en approcher. Mais alors, et à la lumière de toutes ces découvertes, est-il possible de répondre un jour à cette question qui hante depuis près de 100 ans le monde de l'alpinisme ? Pas véritablement. La raison nous pousse à croire qu'ils n'ont pas réussi. Il existe, sur la crête nord, deux ressauts. Si le premier se passe sans trop d'encombres, le deuxième, dernière épreuve avant la pointe finale, est particulièrement difficile à franchir. Et surtout, avec un équipement comme celui des années 20. On est loin des piolets et des manteaux North Face, vous pouvez me croire. Depuis 1975, une expédition chinoise y a laissé une échelle en alu qui permet le passage. Mais en 1924, Pas d'aide possible face à cette masse de plus de 30 mètres qui se dresse là comme une barrière protectrice du sommet. Rajoutez à ça le poids de l'équipement des deux hommes. Il faut compter 13 kilos, rien que pour l'aide d'oxygène. Quand on s'imagine l'état de fatigue et la santé friable, c'est un véritable cocktail Molotov. Au fil des années qui se sont écoulées, les preuves ont été cherchées par beaucoup. Tout se relance lorsque l'expédition chinoise de 1975 revient avec des témoignages troublants. Le corps d'un vieil Anglais, selon leurs mots, a été aperçu près du sommet. Les fantômes de Mallory et d'Irvine hantent le versant nord. Tous ces témoignages forment petit à petit les étapes nécessaires à la découverte du corps de Mallory en 1999. Elle est extraordinaire, cette découverte, dans tous les sens du terme. Bien entendu, Konrad Anker et les siens sont très pris émotionnellement, et on peut les comprendre. Mais au-delà de ça, les indices qu'ils retrouvent sont des plus parlants et permettent de démêler un peu le mystère. Cela ne fait aucun doute. Mallory est tombée dans le vide, s'est écrasée sur le sol. Vu la position du corps, il semblerait qu'il était en phase de descente, tentant de retourner vers le camp. Irvine, lui, serait donc déjà mort, ou du moins, ils se seraient perdus l'un l'autre. La question, elle, hélas, reste sans réponse. On ne sait pas, en réalité, s'ils ont pu atteindre le fameux sommet. Rien ne permet d'aller dans un sens ou dans l'autre. Peut-être un petit indice ravira les optimistes. La photo de Ruth, la femme de George Mallory, introuvable sur son corps. Il lui a promis de la déposer tout là-haut. S'est-elle envolée? A-t-elle disparu à cause des affres du temps? C'est probable, allez-vous me dire. Oui. Oui, mais... Et s'il avait finalement réussi à la poser sur le sommet? Seule l'histoire le sait. Finalement, peut-être que c'est ce qui rend véritablement cette histoire plus belle que les autres. Le mystère cultive le mythe, et le mythe, lui, cultive la recherche de la vérité. Mallory et Irvine, eux, toujours prisonniers de la montagne, en sont les catalyseurs. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec une citation extraite d'un livre de Wade Davis, « Les soldats de l'Everest », publié en 1999. Il résume parfaitement, à mon sens, ce que cette affaire peut nous révéler de beau dans le mystère et l'inconnu. L'auteur écrit ceci. « Il est certain que rien n'aurait pu faire reculer Mallory. Il aurait continué, quitte à ne pas revenir, car, pour lui, comme pour toute sa génération, la mort n'était qu'une barrière fragile que les hommes franchissaient en souriant et vaillamment chaque jour. Ils avaient si souvent vu la mort que la vie leur importait moins que le moment où ils se sentaient vivants. L'Everest, lui, fascine toujours autant depuis sa conquête. De nombreuses expéditions se lancent chaque année après ses pentes et ses crevasses. La montagne les accueille, mais reste une force qui prend des vies. En 2014, 12 personnes y trouvèrent la mort dans un tragique accident sur la rivière de glace, peu avant le sommet. D'autres sont mortes l'année suivante, à la suite d'un terrible tremblement de terre qui fit résonner le toit du monde jusqu'à son cœur. Aujourd'hui encore, près de 200 corps sont toujours prisonniers de cette déesse capricieuse qui, comme un aimant, ne cesse d'attirer les plus aventureux d'entre nous. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.